Quatrième jour, prime. Où Guillaume amène d'abord Salvatore et ensuite le scellérier à avouer leur passé. Séverin retrouve les verres volés. Nicolas apporte les neufs et Guillaume, avec six yeux, s'en va déchiffrer le manuscrit de Vénantius.
Nous allions passer le seuil quand entra Malachi. Il parut contrarié de notre présence et fit mine de se retirer. De l'intérieur, Séverin le vit et dit « Tu me cherchais ? C'est pour ?» Il s'interrompit en nous regardant. Malachi lui fit un signe imperceptible comme pour dire « Nous en parlerons après ». Nous sortions, il entrait, nous nous trouvions tous les trois dans l'embrasure de la porte. Malachi dit de façon plutôt redondante « Je cherchais le frère herboriste, j'ai mal à la tête ». « Ce doit être l'air confiné de la bibliothèque, » lui dit Guillaume d'un ton de prévenante compréhension. « Vous devriez faire des fumigations. » Malachi eut un mouvement de lèvres comme s'il voulait encore parler, puis il renonça, baissant la tête et entra, tandis que nous nous éloignions. « Qu'est-ce qu'il va faire chez Séverin ? » demandai-je. « Atzo, » me dit avec impatience le maître, « apprends à raisonner avec ta tête. » Puis il changea de discours. « Nous devons interroger plusieurs personnes à présent. » Du moins, ajouta-t-il alors que du regard il explorait le plateau, tant qu'elles sont encore en vie. À propos, dorénavant faisons attention à ce que nous mangeons et buvons. Prends toujours tes aliments dans le plat commun et tes boissons à la cruche ou d'autres se sont déjà servis. Après Béranger, nous sommes ceux qui en savons le plus, outre naturellement l'assassin. Mais qui voulez-vous interroger à présent ? Atzo, dit Guillaume, tu auras observé qu'ici les choses les plus intéressantes se passent la nuit. La nuit on meurt, la nuit on rôde dans le scriptorium, la nuit on introduit des femmes dans l'enceinte. Nous avons une abbaye diurne et une abbaye nocturne, et la nocturne paraît malheureusement plus intéressante que la diurne. Partant, toute personne qui circule la nuit nous intéresse, y compris par exemple l'homme que tu as vu hier soir avec la jeune fille. Il est fort possible que l'histoire de la fille n'ait rien à voir avec celle des poisons, et il est fort possible que si. De toute façon, j'ai mon idée sur l'homme d'hier soir. Une personne qui doit savoir pas mal d'autres choses sur la vie nocturne de ce saint lieu. Et on parle du loup, il sort du bois, le voilà justement qui passe là-bas. Il pointa le doigt vers Salvatore, qui nous avait vus à son tour. Je remarquai une légère hésitation dans son pas, comme si, désirant nous éviter, il s'était arrêté pour rebrousser chemin. L'espace d'un instant. Évidemment, il s'était rendu compte qu'il ne pouvait plus échapper à la rencontre, et il reprit sa marche. Il se tourna vers nous avec un large sourire et un bénédicité plutôt onctueux. Mon maître le laissa à peine finir et lui parla d'un ton brusque. « Tu sais que demain arrive ici l'Inquisition ?» lui demanda-t-il. Salvatore n'eut pas l'air content. Avec un filet de voix, il demanda
« Et moi ?»«
Et toi, tu feras bien de dire la vérité à moi, qui suis ton ami, et frère mineur comme tu l'as été, plutôt que de la dire demain aux autres, que tu connais très bien. » Entrepris aussi brusquement, Salvatore eut l'air d'abandonner toute résistance. Il regarda Guillaume d'un air soumis, comme pour lui faire comprendre qu'il était prêt à dire ce qu'il lui aurait demandé. « Cette nuit, il y avait une femme dans les cuisines. Qui était avec elle ?»«
Oh, femme qui savant comment aux marchandises ne peut en caisse être bonne, ni avoir courtoisie, »
récita Salvatore. « Je ne veux pas savoir si c'était une brave fille, je veux savoir qui était avec elle. »«
De où ? Combien sont les femmes des méchantes rusées ? Elles pensent jure et nuit comme l'homme trompé. »
Guillaume le saisit brusquement à la poitrine. « Qui était avec elle, toi ou le scellérier ?» Salvatore comprit qu'il ne pouvait plus continuer à mentir. Il commença à raconter une étrange histoire, dont nous apprîmes non sans peine que pour complaire au scellérier, il le pourvoyait de filles du village, en les faisant entrer de nuit dans l'enceinte par des passages qu'il ne voulut pas nous indiquer. Mais il jura à qui mieux qu'il agissait par pur bon cœur, en laissant transparaître un regret comique du fait qu'il ne trouvait pas moyen d'en tirer plaisir lui aussi, en sorte que la fille, après avoir contenté le scellérier, lui donna quelque chose aussi. Il jargonna tout cela avec de visqueux sourires lubriques et des clins d'yeux, comme pour laisser entendre qu'il parlait à des hommes faits de chair, accoutumés aux mêmes pratiques. Et il me regardait par en dessous, sans que je pusse le remettre à sa place comme je l'aurais voulu, car je me sentais lié à lui par un secret commun, son complice et compagnon de péché. Guillaume décida au point où nous en étions de tenter le tout pour le tout. Il lui demanda à brûle-pourpoint « Tu as connu Remigio avant ou après avoir été avec Dolcino ?» Salvatore s'agenouilla à ses pieds, en le priant au milieu de pleurs abondants de ne pas vouloir sa perte, de le sauver de l'Inquisition. Guillaume lui jura solennellement de ne rien dire à personne de ce qu'il apprendrait, et Salvatore n'hésita pas à mettre le scélérier à notre merci. Ils s'étaient connus à la paroi chauve, l'un et l'autre de la bande de Dolcino. Avec le scélérier, ils s'étaient enfuis pour entrer dans le couvent de Casal. Avec lui, ils s'étaient transférés chez les clunistes. Ils bredouillaient des implorations de pardon, et il était clair qu'on n'aurait pas pu en tirer l'avantage. Guillaume décida qu'il valait la peine de prendre Remigio par surprise et quitta Salvatore, qui courut se réfugier dans l'église. Le scélérier se trouvait du côté opposé de l'abbaye, devant les greniers, en train de négocier avec quelques villageois de la vallée. Il nous regarda non sans appréhension et fit son possible pour se montrer très affairé. Mais Guillaume insista pour lui parler. Jusqu'à présent, nous n'avions eu, avec cet homme, que de rares contacts. Il avait été courtois avec nous, nous avec lui. Ce matin-là, Guillaume s'adressa à lui comme il eût fait avec un frère de son ordre. Le scélérier parut embarrassé de cette familiarité et répondit d'abord avec beaucoup de prudence. « En raison de ton office, tu te trouves évidemment contraint de circuler dans l'abbaye, même quand les autres dorment, j'imagine, » dit Guillaume. « Cela dépend, » répondit Remigio. « Il y a parfois de petits travaux à expédier et je dois y consacrer quelques heures de sommeil. » Dans ces cas-là, il ne t'est jamais rien arrivé qui puisse nous mettre sur la piste de quelqu'un qui rôde sans avoir tes raisons entre les cuisines et la bibliothèque. Si j'avais vu quelque chose, je l'aurais dit à l'abbé. Juste, convint Guillaume. Et il changea brusquement de discours.